Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Des fleuves à l'océan, itinéraire d'un plastique ravageur. 300 millions de tonnes de plastique sont produits chaque année dans le monde, dont un tiers se retrouverait dans la nature et 8 millions seraient déversés dans l'océan. Selon les scientifiques, il faut 20 ans pour décomposer un sac, 50 pour un gobelet. Si l'on ne fait rien, cette production devrait augmenter de 40% d'ici à 2030, d'après le WWF, qui d'ailleurs a annoncé cette semaine qu'une nouvelle espèce d'amphipode, un crustacé d'environ 1 cm, a été découvert dans la fosse des Mariannes et est déjà contaminée par le plastique. Aujourd'hui, le constat est donc unanime à tous les échelons et des solutions alternatives sont recherchées. À l'occasion de la dernière expédition de la goélette Tara, qui de la Tamise au Tibre a cherché à mieux comprendre les origines de la pollution plastique, regard croisé entre nos deux invités, d'horizons différents mais aux préoccupations complémentaires, l'écrivain, académicien, économiste Éric Orsenna, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le parrain de cette expédition, auteur, je le rappelle, notamment du livre « Vive l'océan » publié par le Livre de Poche. On peut citer aussi « Dernières nouvelles du monde » chez Robert Laffont et le dernier « Briser en nous la mer gelée », votre dernier roman paru chez Gallimard. À vos côtés, l'océanographe et biologiste Gilles Boeuf. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, bien évidemment, président du Conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, professeur à la Sorbonne, membre du bureau de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES. Et je signale pour nos auditeurs votre article sur les fleuves et également celui sur les lacs, paru dans les derniers numéros de la revue Relief, et votre leçon inaugurale au Collège de France, la biodiversité de l'océan à la cité, publié chez Fayard. Bienvenue à tous dans notre émission, toujours en partenariat avec le service Planète Science du Monde, dont vous découvrirez tout à l'heure le choix de la rédaction avec la journaliste Martine Vallaud. Et merci à l'équipe qui m'épaule, Anaï Morales, avec à ses côtés complices, bien sûr, Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, la documentation d'actualité de Radio France, l'émission réalisée par Alexandra Malka, à qui l'on souhaite un très bon anniversaire. Et avec aussi le technicien Ludovic Auger.
C'est des filets qui nous servent à récolter le plastique. On appelle ça des filets Manta.
Explications et pédagogie à bord de la goélette Tara pour son escale bordelaise. L'occasion pour ces lycéens de découvrir les détails de la mission Microplastique 2019 qui a vu l'équipage enquêter sur les 9 principaux fleuves d'Europe.
On essaie de vous montrer ce qu'on sait déjà un petit peu, c'est-à-dire que 80% du plastique qu'on va trouver en mer vient de la terre. Et dans 40% de ces déchets-là, en fait, tout vient des ménages. En fait, c'est les poubelles qui débordent dans la rue. Tous les déchets de la terre ravinent vers le fleuve et ensuite ça file à la mer.
La Garonne ne fait pas exception. Ces prélèvements sont minutieusement triés. À la main, les scientifiques isolent les fragments de 1 à 5 mm de plastique, l'équivalent d'un grain de riz.
Sur ce prélèvement, on a trouvé quelques plastiques en amont de Bordeaux. Hier, on a fait un point de prélèvement en aval et là, on avait trouvé un peu plus de plastique. Pour l'instant, juste à l'œil, on voit qu'il y a plus de plastique après Bordeaux. Pour le moment, on ne peut pas en tirer plus de conclusions.
Il faudra pour cela attendre les différentes analyses réalisées à terre par une dizaine de laboratoires.
On va regarder la biodiversité et aussi la composition du plastique. Et en regardant la composition du plastique, on va pouvoir savoir quel est l'impact, par exemple, du consommateur ou des entreprises, des industries qui se trouvent sur le long du fleuve.
C'était un reportage diffusé le 7 novembre dernier, Tara à Bordeaux, et un reportage diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. La goélette Tara, Éric Orsenna, est rentrée à Paris le week-end dernier. Expédition menée pendant 6 mois, de mai à novembre 2019, sur 9 fleuves en Europe. Vous en êtes le parrain. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être en quoi, selon vous, cette opération, expédition scientifique du voilier, cette opération peut faire évoluer la situation ?
D'abord, il faut savoir que Tara, depuis des années, travaille avec une sorte de principe que j'aime bien, c'est-à-dire explorer et partager. Ils explorent. Et c'est des bateaux qui naviguent utiles. C'est-à-dire que c'est des bateaux qui permettent de connaître mieux la situation de notre planète. Donc ils ont travaillé sur les planctons, ils ont travaillé sur les coraux, ils ont participé à des dérives pour expliquer la fonte des glaces, et maintenant ils travaillent sur les plastiques. Comme ils l'avaient fait un peu avant, dans ces sortes de lacs, ce grand lac, en grand péril, qui s'appelle la Méditerranée. Et donc, ce qui est très frappant dans leurs analyses, et j'ai participé aux analyses, moi, dans le plus près de chez nous, c'est-à-dire dans la Seine, c'est-à-dire que on se demandait comment ça arrivait dans l'océan. Bah, ça vient de chez nous. C'est pas l'océan qui a des folies de fabriquer du plastique. Donc, ça venait dans les fleuves. Donc, ils ont prélevé un peu partout. Et ils ont trouvé des choses incroyables que ces microplastiques, ces petites billes, j'aime bien la comparaison du grain de riz, hein, c'est-à-dire moins d'un centimètre, un demi-centimètre, eh bien, c'est des pièges à polluants formidables. Parce que, évidemment, leur surface est très rugueuse, donc les polluants s'agrègent là-dessus, et c'est aussi des pièges à bactéries. Donc, c'est non seulement l'origine de tout ce continent flottant que l'on repère un peu partout, nous les navigateurs, un peu partout au milieu de l'océan, mais c'est en même temps cette sorte de déferlement de saloperies, et qui ne dépendent que de nous. Si on fait plus attention, l'océan sera propre.
Gilles Boeuf, Tara, vous connaissez ces expéditions, en tout cas vous connaissez la goélette depuis toutes ces années, c'est ça. Parce que en plus, on ne l'a pas encore dit, mais ils embarquent aussi à bord des scientifiques, ils travaillent en partenariat avec des laboratoires.
Là, 17 cette... labos.
C'est ça, hein, 17 labos pour cette expédition, de différentes spécialités bien sûr, et l'objectif c'était d'identifier donc les sources de pollution, comprendre les fragmentations, parce qu'on a parlé des microplastiques, donc comprendre la présence de ces microplastiques et des plastiques dans les fleuves, prédire leur dispersion vers l'océan, comprendre les impacts sur la biodiversité marine et puis les effets sur la chaîne alimentaire. Concrètement, il y a ces microplastiques, mais d'où ils viennent? C'est tellement petit.
D'abord, je dirais que Tara, ils sont scientifiques par essence au départ. Hein. C'est des gens qui sont des scientifiques qui ont lancé l'idée. Et c'est parti de l'EMBL et puis de collègues, de Roscoff ou de Banyuls, des stations marines françaises, hein, ou de Marseille. Et c'est vrai que... Je rejoins Eric, depuis le départ, ils sont extrêmement sensibles à la façon de diffuser ces informations. Ils accueillent des enfants du monde entier, parce qu'ils font des tours du monde avec cette goélette-là. Donc sur le plastique, c'est vrai que le défi était intéressant, parce que c'est pas un scientifique le premier qui révèle le grand continent de plastique au large des côtes de Californie. C'est un grand navigateur qui dit, vous savez, j'ai trouvé des trucs bizarres. Et depuis, beaucoup s'y sont mis depuis. En fait, il y en a au moins 5 à l'heure actuelle formés dans tous les mers du monde appelés océans. Parce qu'il y a un seul océan sur la
Terre. Un seul océan.
Je tiens à le dire.
Un seul océan. C'est très important parce qu'il y a un seul océan et il y a beaucoup de fleuves. Et nous, parce que c'est mon maître, hein. Oui, Gilles Boeuf est mon maître.
C'est ça. Moi, Gilles Boeuf est le maître d'Éric Orsenna.
Ah, non, parce que moi, je suis un petit économiste de base, donc un imbécile. Et lui m'a montré ce que ça voulait dire. Et donc, il m'a appris l'unité du vivant. Et donc l'unité du vivant, c'est incarné, on peut mieux, parce qu'on vient de là, donc il nous a engendré aussi, c'est vraiment un océan. Dire qu'il y a un océan, déjà, ça permet d'être moins bête.
C'est pour ça qu'il a ce rôle sur le climat. Il faut dire que chacun, au fond de nous-mêmes, on a, par exemple, 142 millimoles de sodium, c'est intéressant, 105 de chlorure, c'est quoi le chlorure de sodium? C'est le sel de l'océan. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important de se rappeler cela pour revenir aux origines. L'humain est un fragment de tout cela, bien sûr. Et on partage de l'ADN commun avec des tas de choses. Avec une mouche, avec un copépode, avec une banane par exemple.
Et là peut-être avec l'amphipode trouvé dans la fosse des Mariannes.
Absolument, oui bien sûr, puisqu'on a, au moins les deux tirs en commun avec un petit nématode du sol. Donc l'humain fait partie de ce tout, il le refuse. S'il l'admet, ça changera les choses, parce que dès le moment où on va admettre que nous sommes cette diversité et cette nature, chaque fois qu'on l'agresse, on s'auto-agresse. Ce qui est un peu stupide pour une espèce qui elle-même s'est quand même appelée sapiens, il fallait quand même le faire. Donc pour revenir au plastique de Tara, le but c'est effectivement, on le savait déjà que ce plastique, c'est pas l'océan qui le génère, bien évidemment. Il finit là. Oui, tout finit dans l'océan.
C'est notre quotidien.
Ce qui est dramatique,
les microplastiques, on les retrouve, par exemple, les microbilles qui sont dans les cosmétiques, dans les dentifrices.
Mais partout. Mais même une bouteille de plastique, elle va sous les effets de la lumière se dégrader, et puis elle va finir sous forme de tout petits fragments qui vont s'accumuler dans ces gyres océaniques, mais partout. Il y en a qui sont au fond aussi. Il y en a partout du plastique. On en est rempli. Mes collègues américains me disent qu'en Californie, en ce moment, plus d'un poisson sur deux est rempli de plastique. On bouffe ses poissons. Nous aussi, on est rempli de plastique. C'est partout, partout, partout.
Et oui, parce que comme le disait Eric Orsenna, donc ces matières plastiques, elles relarguent, elles, oui. leurs additifs, des perturbateurs endocriniens, comme le bisphénol A ou les phtalates.
Tout à fait.
Et certains donc jouent le rôle d'éponges à polluants, et on retrouve des polluants organiques persistants, et tout cela rentre dans la chaîne alimentaire.
Complètement. Eric l'a très bien dit. En fait, c'est la multiplication à l'infini des surfaces d'échange. Il y a peu de surfaces d'un océan ouvert, parce qu'il n'y a pas tellement, finalement, de biomasse dans l'océan au large. Mais la multiplication à l'infini de surfaces d'échange font que tout ce qui peut se fixer en mer, ben c'est génial, hein. Ça fait des supports absolument fantastiques. Donc, il y a des métaux lourds, il y a des perturbateurs endocriniens, tels que tu le disais. Et puis, il y a aussi, bien sûr, énormément de toxiques divers et variés. Et des germes. On a également des choses un peu curieuses dans l'autre sens. On a des insectes qui n'étaient pas marins. ou très rarement. Puis il y en a un, puis il a trouvé ça sympa, les pseudo-continents de plastique, puis il s'est mis à proliférer là-dessus. Et du coup, il y a un crabe qui le bouffe, qui est arrivé, qui prolifère aussi sur ces océans de plastique. Ouais. C'est ça, le génie du vivant. Mais le problème, c'est que c'est bien sûr au détriment de tous les autres, hein.
Et d'où des effets toxiques sur les organismes qui les ingèrent, bien ralentissement sûr de la croissance, Eric Orsena, les conséquences maintenant commencent à être enseignées, et notamment ce travail fait par le voilier, enfin Tara, les scientifiques du voilier Tara, donc des conséquences sur la reproduction.
Pas de reproduction, on change de sexe par exemple. Ah, hein. Oui. On m'a amené récemment un petit flet de la baie de Normandie, la baie de Seine, et ben il avait un TCQ, il a un ovaire, il ne savait plus ce qu'il était ce pauvre animal en fait.
Eric Orsena, l'océanographie à votre avis est une conquête aujourd'hui, voire une guerre, on parle de campagne scientifique, hein. On sent que les chercheurs aujourd'hui sont dans la lutte contre la pollution en général.
Alors moi c'est un peu l'expérience que j'ai faite. Je navigue depuis l'enfance et donc j'ai un peu été pas trop mauvais en micro-météo pour pas arriver dernier dans les régates et profiter des risées. Puis je me suis dit un jour, mais cette relation entre l'océan et l'atmosphère, pourquoi j'étudierais pas un peu ça, même si je ne suis pas scientifique? Et j'ai fait un livre de vulgarisation sur le Gulf Stream. J'ai dit, mais c'est formidable. Pourquoi on laisserait la science aux scientifiques? Vous savez, c'est une question formidable. C'est ce que disaient des scientifiques. Il ne faut pas devoir hésiter entre la mort des scientifiques et la dictature des ignorants. Vous voyez, c'est ça l'affaire. Et donc, c'est ce que je me suis dit, on va raconter l'histoire. Si j'ai une très éventuelle utilité sociale, c'est de raconter, d'aller voir les scientifiques, comme Gilles, et de raconter. Donc, on raconte ça. Et quand on raconte, un, l'unité, et deux, la responsabilité. L'unité, on en a parlé, et la responsabilité. C'est-à-dire, ça dépend de nous. Il suffit de gestes extrêmement simples, mais répétés à l'échelle, par exemple, d'une ville, pour que ça aille mieux. Et les villes sont clés.
On va en parler justement. Je reste sur votre parcours, Eric Orsena. Vous êtes le parrain. Certains vont peut-être se dire, bah oui, mais pourquoi Eric Orsena, parrain d'une opération comme ça? Ce n'est pas pour rien. Votre terre d'enfance, à vous, c'est l'île de Bréhat. Aujourd'hui, vous avez une maison entre Paimpol et Tréguier. Et on sent que vos terres racines, hein, à la fois tournées vers l'océan, mais également les fleuves que vous êtes allé voir, que vous avez arpenté de par le monde, c'est vraiment votre ADN.
C'est grâce à l'invitation d'Isabelle Autissier qui m'a dit un jour, est-ce que tu viendrais avec moi sur un bateau pour aller voir l'Antarctique? Alors, au début, elle avait un grand bateau, et puis les crédits étant faibles, le bateau diminuait de plus en plus. Donc, j'ai fait un check-up parce que je mourais de peur de partir avec elle, parce que le dernier bateau qu'elle avait acheté avait 15 mètres. Je me suis dit, oh là là, aller en Antarctique à 15 mètres, avec le Drake que je connais, les vagues, et tout. Puis ils m'ont rien trouvé, et ce check-up, et donc je suis parti, mort de peur, et c'est les plus beaux voyages de ma vie. Parce que c'est là où j'ai changé un peu de grâce à elle. Et la mer est une leçon, puisque c'est l'origine. C'est l'origine de tout. Donc, il faut se rappeler, avoir cette humilité-là de dire qu'on vient de là. Donc, à partir de là, on se dit, bon, ben, comment ça marche? Et évidemment, en travaillant sur les fleuves, j'ai toujours été passionné par les fleuves. Pour une raison simple, c'est que l'été, je naviguais au bord de la mer, mais comme j'avais envie de naviguer pendant l'hiver, je naviguais où? Sur les fleuves. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à aimer les fleuves. Et le livre qui a eu le Goncourt, l'exposition coloniale, est un livre sur le fleuve Amazon. Et quand j'écris Badamba, c'est un livre sur le fleuve Niger, qui est en péril de mort. Parce que les gens se déchirent tout le long du fleuve Niger, qui devient vide. Et que l'origine même du Niger dans le Fouta Djallon, c'est-à-dire un massif montagneux, est en train d'être remis en cause parce qu'on l'a vendu aux Chinois, qui sont en train de le déforester pour extirper toutes les matières premières très riches en Guinée. Donc c'est ça la question. Les fleuves peuvent mourir aussi.
Gilles Boeuf, les fleuves, vous les connaissez et on peut renvoyer nos auditeurs à l'article que vous avez écrit pour la revue Relief.
Formidable revue. Hein.
Exactement.
Exceptionnelle revue. Je salue Relief. C'est formidable.
Ce sont quatre articles. Hein. Océan, rivage, fleuve et lac.
Exactement. Et on mettra bien sûr à disposition pour les auditeurs les liens sur le site de l'émission. Donc le plastique, un des problèmes qui touche les fleuves, les lacs, l'océan, les plages et a des conséquences directes sur la biodiversité et la chaîne alimentaire. Ces fleuves, aujourd'hui, on doit s'en préoccuper en priorité.
Totalement, totalement. Vous savez, les fleuves, ils sont là pour distribuer de l'eau qui vient du ciel, hein, à partir de sources qu'on récupère. Donc, on part d'un point haut pour aller vers un point bas. Et le point bas, c'est toujours une embouchure, hein, un estuaire, c'est l'océan. Et il joue un rôle absolument incroyable à distribution de la masse d'eau. Finalement, quand vous regardez la masse d'eau de la Terre, 97-90% c'est de l'eau salée. Hein. Et cette eau-là n'a pas des vertus physiologiques immédiates. On peut en faire des choses, mais bien après. Donc, l'eau qui est utilisable pour les organismes vivants, eh bien, ce sont bien effectivement les sources, les lacs, les fleuves. Et c'est que quelques pourcents, en fait. Une grande partie est gelée, c'est la cryosphère. On en parlait beaucoup dans le rapport du GIEC le dernier. C'est en train de dégeler un petit peu de partout en ce moment. Et tout ça finit à l'océan. Et ceci contribue, bien sûr, aussi sur la variation du niveau de la mer, bien évidemment, hein, selon les apports. Mais auparavant, cette eau, elle arrivait dans des qualités incroyables. Je me suis toujours demandé, ça intéressera Eric, le premier humain qui est arrivé sur une plage avec de l'eau salée. Il connaissait l'eau douce. C'est tellement vital pour lui, tous les jours, il prenait de l'eau, il la buvait dans la paume de sa main, c'était vital. Il arrive à l'océan et pour la première fois, il la boit, il la recrache, elle est salée. Et c'est la première découverte, en fait, par des humains de l'eau salée, qui est le fondement même du système Terre aujourd'hui. Et ça veut dire que ces fleuves, ils sont absolument essentiels. Ils sont devenus des égouts, des à ciel ouvert, des cloaques. C'est pas possible aujourd'hui que l'humain puisse continuer à se comporter comme ça. Et des aspects démographiques, et puis des aspects d'irrespect total. Nos anciens, Eric le sait très bien, les sources étaient vénérées. On faisait pas un château fort s'il n'y avait pas un point d'eau, hein, quand on l'entourait. Aujourd'hui, on a une amenée d'eau, de bassins versants, d'un petit peu partout. On mélange tout, puisque quelquefois c'est sale, et ben on mélange avec du plus propre. Et cherchez-moi une seule masse d'eau en France qui ne soit pas contaminée. Et ça, c'est vraiment un irrespect total pour ce système. Et qui s'abîme, bien sûr, les activités économiques humaines, mais l'humain le premier aussi, bien évidemment.
Et aujourd'hui, de par le monde, hein, Eric Orsena, on retrouve des fleuves qui ne parviennent même plus à la mer.
Oui, hein, le Colorado.
Non, mais c'est ça, le Colorado. Peut-être, regardez, la rivière Murray en Australie, on le voit bien. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a 4 ans, avec la Compagnie Nationale du Rhône, on a créé ce rassemblement des gestionnaires des fleuves du monde. Pourquoi le Rhône? Le Rhône est très petit par rapport aux autres. Mais en fait, c'est un fleuve qui est très intéressant parce qu'il est géré de façon unique. Il y a la partie suisse, bien sûr, mais c'est un fleuve qui fait de l'hydroélectricité, donc de l'électricité durable et puis non fossile, bien sûr, qui gère le transport et qui gère l'irrigation. Et ça n'existe nulle part ailleurs.
Et qui refroidit du nucléaire.
Et qui refroidit le nucléaire avec de l'eau de plus en plus chaude. Donc, ce qui est un petit problème, pas du tout évident. Donc, on a réuni des responsables, des gestionnaires du monde entier, des plus grands fleuves, donc fleuve jaune, donc voilà, le fleuve Sénégal, le Saint-Laurent, etc. Et donc, pour essayer de voir, mettre en commun. Et on pose des questions toutes simples. Comment est-ce qu'on peut faire pour sauver les deltas? Il y a 5 à 600 millions d'êtres humains qui vivent dans des deltas. Les deltas, ils sont des enfants des sédiments. Si vous avez plus de sédiments, vous avez plus de deltas. Si vous avez plus de mangroves qui protègent les deltas des tempêtes et de la montée des eaux marines, vous avez plus de deltas. Si vous multipliez les barrages en amont, il y a plus de sédiments, etc., etc. Donc, voyez,
et
nous avons
ces questions. Et nous, en plus, voilà, de la montée des eaux.
Hein. Et on est passionnés, nous, par évidemment le constat, mais aussi par les solutions. Et quels sont les partenaires des solutions? Et on s'aperçoit que le conflit normal, étant donné des options aussi légitimes les unes que les autres, mais contradictoires, s'il y a uniquement le face-à-face entre les États et les ONG, on n'arrivera à rien. C'est pour ça que c'est important de mettre les pollueurs à contribution, c'est-à-dire les villes qui, par définition, polluent, et les entrepreneurs qui, par définition, polluent aussi. Mais ceux qui causent les problèmes ont en eux-mêmes les solutions. Et s'ils ne mettent pas en œuvre les solutions, ils vont être rayés de la carte parce que les consommateurs et les électeurs ne voudront plus d'eux.
Donc il est urgent, c'est ce que l'on comprend à travers vos mots, Eric Orsena, urgent d'associer et les industriels, en tout cas ce secteur économique aux politiques et aux citoyens conscients pour essayer de régler le problème. Je vous propose justement d'écouter ce document sonore. C'est le reportage diffusé sur France 2 le 17 février dernier, jour où la secrétaire d'État Brune Poirson réunissait les fabricants de lave-linge.
Et si une partie de la pollution marine était due à un geste tout simple, quotidien, lancer sa machine à laver? De quelle pollution parle-t-on exactement? À chaque lessive, nos vêtements synthétiques libèrent plusieurs centaines de milliers de microfibres plastiques qui partent dans les égouts et viennent s'ajouter à la pollution marine. En tout, chaque année, 500 000 tonnes de ces microfibres arrivent dans les océans, soit l'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique.
On parle de particules de toute petite taille qui sont pour l'essentiel pas visibles du tout à l'œil, hein, de quelques microns pour l'essentiel, et qui donc peuvent être emmenées soit par le lavage, soit être enlevées par le frottement. Donc ce sont des particules qui peuvent venir de nos vêtements, mais aussi de nos usages textiles synthétiques en général, l'ameublement, les moquettes, etc.
Alors, comment les filtrer ? Le gouvernement l'a annoncé ce matin aux fabricants. D'ici 2025, les 2 700 000 lave-linges vendus chaque année devront être équipés d'un filtre pour retenir ces microparticules avant même qu'elles n'atteignent les canalisations.
En industrie, hein, vous le savez, les processus de fabrication, souvent c'est 8 ans de développement. Donc là, on a un délai qui est beaucoup plus court, donc il va falloir être extrêmement innovant pour arriver à tenir ce délai.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Une réaction peut-être, vous avez pu entendre probablement ces sujets traités ces dernières semaines. Est-ce que les solutions, elles passent par là ou est-ce qu'il faut envisager un autre niveau de réaction ?
On peut d'abord jouer sur la genèse de ces microfibres elles-mêmes, c'est-à-dire dans la fabrication des vêtements ou des tissus d'ameublement, réfléchir un petit peu à ce qu'on fait, à leur devenir. Hein. Donc je pense que l'usure en permanence sur des lavages répétés amène à ces questions-là. Puis après, alors, les filtres, moi je veux bien, c'est bien mieux que le laisser partir, mais après, qu'est-ce qu'on fait de ce qui sera dans les filtres hein. Si c'est pour remettre dans la poubelle d'à côté et qu'ils disparaissent un peu plus tard, ça n'a aucun intérêt. Donc il y a des vraies questions générales. C'est comme pour les cuves de pétrole géants. Bon, les gens transportent chaque année des milliards de tonnes d'eau de mer, rempli de tas de trucs, dont maintenant les microplastiques et ces perturbateurs endocriniens qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, bien sûr qu'il faut prendre des mesures, c'est extrêmement important. Puis, il faut jouer aussi sur toutes les questions d'obsolescence diverses et variées. Ça veut dire que, bah, je suis désolé, il y a des gens qui savent construire, qui savent produire des tissus ou des tout ce que vous voulez dans des conditions beaucoup plus vertueuses que cela. Il faut y penser dès le départ, au moment de la fabrication. Comment on recycle ?
Moi, ce qui me frappe, c'est raconter toute l'histoire de chaque produit. On appelle ça, avec un jargon, éco-conception, mais toute l'histoire. C'est-à-dire depuis le début. C'est-à-dire depuis la naissance, ça vient d'où? Et puis jusqu'au bout, et les vies d'après la mort. Et comment est-ce qu'on fait? Et moi, je suis frappé de voir que, par exemple, dans la filière nucléaire, on a dit et proclamé partout que c'était une énergie peu chère. Évidemment, parce qu'on ne retient que ce qu'on veut comptabiliser. Et si je devais refaire une thèse d'économie, pas comme la mienne qui était débile sur des questions monétaires tout à fait détaillées, je ferais la différence entre le prix et le coût. Et que
le coût d'un démantèlement,
le coût général, et on prend le démantèlement, on prend l'enfouissement des déchets ou la valorisation des déchets, mais on prend l'ensemble, parce qu'autrement vous ne intégrez dans le prix que ce qui vous fait plaisir. Alors vous pouvez baptiser, c'est cher ou c'est pas cher.
Et là on arrive à
c'est extrêmement malhonnête intellectuellement, puisque vous dites ah ben ça vaut pas cher. Mais après ça veut dire quoi? Comme d'habitude, vous augmentez la dette des générations futures. C'est ça quelque chose de pas cher. Pas cher pour nous, plus cher pour nos enfants.
Donc le nucléaire, en tout cas, a un coût important, il faut
tenir compte. Pourquoi pas l'intégrer, moi, c'est un vrai
débat. La dette et la souffrance, hein. Dans les pesticides, je suis désolé, on ne tient pas compte du coût des cancers de la prostate ou des cancers du sein. C'est de la souffrance. D'abord, c'est des coûts matériels pour l'État, mais c'est aussi des choses qui sont incroyables. Le chlordécone à la Martinique, la Guadeloupe, en permettant pour gagner quelques centimes sur le prix des kilos de bananes, des produits qu'on savait horriblement dangereux, et on a empoisonné ces territoires pour combien de temps? 2 siècles, 3 siècles. Cette immédiateté-là politique, elle n'est plus possible aujourd'hui. Il faut que les citoyens la refusent très clairement.
Vous savez que en ce moment, on a une remise en cause de notre démocratie. La démocratie, on ne sait pas qui doit... Voilà, il y a des questions d'espace, on tire au sort des gens, etc., etc. Mais aussi, il y a la question du temps. Parce que la démocratie, en général, c'est un mandat de 5 ans. Mais quand, évidemment, une décision va engager sur 15 ans, imaginez ce qu'il faut de vertu à un élu pour prendre une décision dont on ne verra les effets que 3 mandats plus tard, de préférence à une décision qui se verra immédiatement. Quand, par exemple, vous réhabilitez les réseaux d'eau, ça emmerde tout le monde parce qu'il y a des travaux, mais c'est peut-être plus rentable que créer une nouvelle usine d'eau. Mais, et ça, la presse est responsable, c'est-à-dire que si vous lancez une grande campagne de réhabilitation des réseaux, vous n'aurez pas un journaliste pour couvrir l'événement. Mais si vous lancez une nouvelle usine, tout le monde sera là. Donc comprenez, il y a la question du récit, c'est ça notre affaire, de dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc il n'y a pas seulement la question de l'espace, il y a la question du temps. Le durable, ça veut dire intégrer le temps comme un facteur et pas le nier. Vous savez, c'est ça le retour de la géographie par rapport à l'histoire. C'est pas la maîtrise intégrée de l'homme, enfin supposée de l'homme sur l'histoire, c'est la géographie avec ses rythmes à elle.
Ça veut dire de modifier complètement la façon de concevoir et de penser, ne serait-ce que les carrières politiques,
mais, en tout
cas, les enjeux, les mandats.
Mais c'est extrêmement intéressant. Ça ne veut pas dire que ça va devenir moins intéressant, au contraire.
C'est le problème de l'obsession de la réélection, par exemple.
Oui.
Comment faire ? Il faut promettre des choses qui sont faisables sur un temps long.
J'ai une possibilité, en tant qu'ancien conseiller d'État, personne n'est d'accord, sûrement pas l'Académie française, c'est un droit de vote proportionnel à l'espérance de vie. Donc moi, j'ai 1 demi-vote, vous en avez 3. Et puis, mes enfants en ont 8. Personne n'est d'accord à l'Académie.
Ah, vous n'avez pas réussi à faire passer votre idée.
À un moyen d'âge à 80 ans, personne n'est d'accord.
Gilles Boeuf, en tout cas, on se rend compte qu'il faut, à l'image de Tara, hein, continuer à renseigner, documenter pour mieux orienter et puis faire prendre conscience de l'état des lieux. On a parlé des conséquences sur la santé des humains, mais il y a bien sûr les conséquences sur la biodiversité. On peut citer quelques chiffres, 14 000 mammifères marins meurent chaque année, encore ce sont ceux qu'on arrive à identifier ou à repérer. 1,4 million d'oiseaux, les espèces consommées par l'homme sont polluées, donc il est grand temps de réagir. Alors peut-être un mot sur, faut-il légiférer plus sévèrement? Là, on pense à la loi biodiversité. D'ici à 2021, une dizaine de produits en plastique seront interdits dans l'Union européenne. Paille, coton-tige, touillettes de café et autres couverts, etc. Fin du plastique à usage unique. Il faut en finir, on l'entend, on le dit, avec le gaspillage alimentaire. Quel est votre regard, Gilles Boeuf, sur cette législation peut-être qui émerge?
Il faut légiférer parce que ce qui est... Je suis abasourdi, je vois que la couche d'ozone qui est incroyablement importante pour protéger la planète, on fait des trous dedans avec des gaz de mousse à raser. Un coton-tige qui tue une tortue de 80 ans, issue d'une évolution de 200 millions d'années. C'est inconcevable en fait. Et des choses qui servent pas à grand chose. Et c'est là qu'est le problème aujourd'hui. C'est que il y a un énorme problème d'éducation, je pense, qu'il faut commencer extrêmement tôt. Donc légiférer, oui, mais ce qu'il faut, c'est effectivement que chacun se sente, non pas coupable ou le mettre au pilori. Pour ça, moi, l'écologie punitive, je crois absolument pas. C'est quelque chose de très différent, où on va se responsabiliser avec une culture de l'impact. Si je fais ça, il va se passer ça. Alors pour revenir aux scientifiques qu'on évoquait tout à l'heure, ils font parler de la biodiversité. Mais je ne voudrais pas d'un monde dirigé par des scientifiques, Parce que je les connais, mes copains scientifiques, ça marcherait pas. Par contre, ce qu'il faut de façon très claire, c'est beaucoup mieux les écouter pour prendre les bonnes décisions. C'est tout un travail, en fait, de société, aujourd'hui. Et puis, là aussi, ce qui est très important qu'on n'a pas fait, dans le cas des Gilets jaunes, c'est typique, c'est que il faut absolument d'abord tenir compte des impacts sociaux, régler les questions sociales, et ensuite prendre des mesures. La taxe carbone, la même pour tous, c'est une catastrophe au niveau social. Il y a des gens qu'on va assassiner, qui le méritent absolument pas. Qui mérite d'être assassiné? Personne. La vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de mettre en musique ces impacts sociaux qu'on mesure, qui souvent viennent d'une évolution de plusieurs dizaines d'années, en fait. C'est pas la faute d'une personne. Sur les mesures qu'on va prendre. Et puis arrêtons effectivement des taxes qui seraient pas substituées à d'autres. Il faut aujourd'hui que demain, justement, toutes nos taxes qu'on mettrait en place pour des raisons environnementales, pour qu'on les accepte, se substituent à des taxes antérieures qui, des fois, sont délétères pour l'environnement, d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion générale. Il faut un système organisé. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à des choses où les gens réfléchissent. Moi, ce qui m'a fait très très mal au début, justement, parce qu'on a voulu faire croire à des gens qui étaient pauvres que l'écologie, c'était un sport de luxe, c'est monstrueux. Quand ça va aller mal, et si on ne fait rien, ça va aller mal, qui va trinquer en premier? C'est là qu'il faut expliquer ceci. L'écologie, c'est une science. Ce n'est qu'une science et pas autre chose que ça. Alors après, bien sûr, on met en place des politiques de gestion, de règlement, d'organisation humaine, avec un leitmotiv. On adapte notre économie et nos systèmes économiques à l'écologie qui dure depuis 4 milliards d'années, et pas l'inverse. Ça marche pas l'inverse. L'écologie n'a pas à se plier à nos lois économiques, sinon on arrive à des catastrophes. C'est la tragédie des communs qu'on connaît bien.
Éric Orsenna, sur cette proposition aussi de peut-être mieux orienter les taxes et éviter qu'il y ait une sorte de couperet aussi ou de fracture sociale.
Écoutez, moi je suis breton d'adoption, les gilets jaunes je les ai vus, ils avaient une autre couleur, ils avaient des bonnets qui étaient rouges. Et on leur faisait payer deux fois l'éloignement. L'éloignement géographique et puis l'éloignement parce qu'il fallait payer. Il fallait payer pour les urbains. Donc c'est évidemment insupportable. Donc il faut un pacte général où chacun apporte sa contribution. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut, et moi je suis prof de fait, il faut apprendre. Et alors quand même la prise de conscience, elle me frappe. C'est-à-dire la première fois où j'ai navigué dans l'archipel du Cap Horn, on me disait « Ah, t'as eu des tempêtes ». Et les fois suivantes, on m'a dit « Est-ce que ça fond ?» Parce que il y a 10 ans, on aurait demandé aux gens qu'est-ce que c'est qu'un gaz à effet de serre, personne ne savait. Donc il faut de la science. Il faut de la science, ne serait-ce que pour répondre aux criminels qui sont contre la science, contre le savoir. Et c'est ça l'affaire. Donc il faut apprendre. Il faut apprendre dès le plus jeune âge. Vous savez, moi, j'ai l'honneur d'avoir un certain nombre d'écoles qui portent mon nom. Et bien dans ces écoles, on fait tous, avec le corps enseignant tout entier, expliquer ce qui se passe. Et on a une école près de chez moi, là, qui va étudier un petit fleuve côtier. Il s'appelle le Trieux. Et qui a choisi comme travail pédagogique sur 2 ans, de la maternelle au CM2, d'expliquer ce que c'est qu'un fleuve, comment on protège le fleuve, et non pas un personnage qui n'existe pas. C'est-à-dire, le fleuve doit entrer dans la famille.
Mais alors, on a le sentiment quand même que justement, les jeunes sont plus largement informés ou éduqués aujourd'hui. Il y a tout un rôle pédagogique qui est mis en place dans les écoles. Est-ce que quand on dit qu'il faut informer ou éduquer, sensibiliser, ce n'est pas justement dans les générations d'après ?
Mais oui, mais ça commence aujourd'hui. Regardez déjà les programmes extraordinairement verdis des candidats aux municipales. Et non, ce qui me frappe d'ailleurs énormément, c'est qu'ils ont bien compris que c'est à l'échelle des villes que ça se passe. Pourquoi ? Parce que c'est à l'échelle des villes qu'on voit les pollutions. Mais c'est justement à l'échelle des villes qu'on peut avoir des solutions à ces pollutions. Vous voyez, ça rime, solution, pollution.
Eh bien, on va en parler juste après la chanson que Gilles Boeuf a choisi de nous faire écouter. Gilles Boeuf, Simon & Garfunkel,
ah, oui.
The Sound of Silence.
Ah oui, depuis toujours, hein, c'est ma chanson fétiche. Elle sort à une époque où moi j'étais quand même commençant à m'intéresser à toutes ces questions-là. Et puis ces gens-là ont dit des choses avec des mots très simples. Quand vous relisez un peu les chansons en anglais, c'est souvent extrêmement simple au niveau du vocabulaire et au niveau du message qui passe, mais c'est superbe. Puis la mélodie est géniale aussi, je pense.
La mélodie est géniale.
Paul Simon.
Et puis le silence, c'est le silence,
The Sound of Silence.
D'un monde où il n'y a plus d'oiseaux. Oui,
c'est le moment où Rachel Carson sort.
Rachel Carson.
Silent Spring, oui.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls.
C'est la suite de notre émission De cause à effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui à la pollution plastique des fleuves à l'océan et à l'expédition Tara qui, en 6 mois, a scruté 9 fleuves en Europe pour mieux comprendre les origines et imaginer les solutions contre cette pollution plastique. Avec nous, Gilles Boeuf, donc, je rappelle que vous êtes président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, professeur à la Sorbonne et membre du bureau de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, et Éric Orsenna, écrivain, académicien, économiste. On peut dire que vous avez une formation aussi de philosophe, vous avez fait sciences politiques, enfin vous êtes multicarte, hein, plein de choses.
Hein, j'ai essayé, j'ai pensé qu'il fallait multiplier les regards pour avoir une chance de comprendre.
Et vous êtes le parrain de cette expédition, Tara, mais sans plus attendre les directions, le service des pages planètes du journal Le Monde, notre partenaire. Bonjour Martine Vallaud.
Bonjour.
Vous avez choisi, Martine, de nous parler aujourd'hui des échouages massifs de dauphins sur les côtes françaises avec, on le comprend dans votre article, des quotas en hausse selon les observatoires. Où en est-on précisément?
Alors, depuis 2016, chaque hiver, on voit le bilan s'aggraver. Bon, il y a deux choses à dire. Il y a le nombre de dauphins, de cétacés qui sont retrouvés sur les côtes. Et ce que les scientifiques estiment en pensant que de très nombreuses carcasses n'arrivent pas sur les côtes, mais coulent au fond du golfe. Et donc, si on prend ce chiffre-là, ils estiment que l'an dernier, 11 300 dauphins communs avaient fini de façon tragique et rapide, soit au fond du golfe, soit sur les plages. Cette année, on risque d'atteindre un chiffre encore pire.
Et oui, parce que là, nous sommes à plus de 600 cétacés retrouvés morts depuis décembre, dont voilà. 95% ont des blessures dues à des accidents de pêche. Donc, il y a possiblement des bateaux incriminés ou des techniques de pêche en particulier?
Alors, c'est un peu la question sensible. On a un temps pensé que la pêche entre deux bateaux qui tirent des grands filets pouvait être incriminée, mais n'est sans doute pas responsable d'autant d'accidents. On sait en revanche que dans le golfe de Gascogne, on installe des filets un peu comme des murs, si vous voulez, qui font plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de long. Et sans doute, ces filets-là ont aussi leur responsabilité.
Alors, selon Sea Shepherd, la France serait le pays qui tue le plus de dauphins en Europe, Martine Vallaud. Qu'en est-il? Et surtout, la France, est-ce qu'elle n'est pas dans l'obligation de tout mettre en œuvre quand même pour protéger ces espèces?
Bon, alors, il faut être juste, il faut dire que d'autres pays sont confrontés au même phénomène d'hécatombe. C'est vrai en Grande-Bretagne ou dans la mer Baltique. La France, est-ce qu'elle devrait tout mettre en œuvre? Oui, absolument, puisqu'elle a signé d'une part des conventions internationales en ce sens, et d'autre part, elle a pris des arrêtés, parce que le dauphin commun est une espèce protégée. Mais tout est interdit avec le dauphin commun, aller l'embêter, détruire son habitat, etc., sauf les accidents de pêche qui, eux, sont tolérés.
Et alors, on comprend dans votre article que, selon la FNE, la France donc ne prendrait pas de mesures suffisamment ambitieuses. La FNE, c'est selon France Nature Environnement, qui s'est associée à 22 autres ONG pour demander à la Commission européenne de former une procédure d'infraction contre 14 pays, 14 gouvernements, dont celui de la France. C'est une action qui peut faire peut-être évoluer la législation?
Je suis un peu sceptique puisque la législation existe. Il y a un arrêté qui a été réécrit et republié en 2011 qui donc indique ce que je vous ai dit, qui protège cette espèce, néanmoins qui tolère les accidents de pêche. Or, personnellement, je suis allée dans le golfe de Gascogne l'année dernière et j'étais vraiment impressionnée la nuit par la quantité de bateaux de pêche qu'on repère très bien la nuit avec leur éclairage qui sont dans le golfe en hiver. En fait, les dauphins et les pêcheurs cherchent la même chose, cherchent la même cible et donc on voit mal comment cette situation pourrait se résoudre. Alors, il y a un outil qui s'appelle les pingers qui sont censés les repousser. C'est un engin de répulsion acoustique. En même temps, est-ce qu'on peut repousser tous les animaux qui sont dans le golfe de Gascogne? Enfin, ça pose beaucoup de questions.
Alors, Martine Vallaud, vous restez avec nous, je me tourne vers nos invités. Gilles Boeuf, peut-être une réaction d'emblée?
Ces histoires de pêche accessoire, parce que les pêcheurs ne cherchent pas à pêcher les dauphins, il faut bien le dire. Il faut absolument qu'on travaille beaucoup plus sur la question. Là, quand même, c'est peu abordé au niveau scientifique. Moi, je me rappelle des grandes pêcheries de thon au Mexique. Vous vous souvenez, une année où des ONG avaient boycotté le thon mexicain. Et ça avait marché. On était passé de 700 000 thons dans la pêcherie mexicaine tous chaque année à 70 000. Alors, pour certains, c'était encore trop. Mais enfin, on avait divisé par 10 les dauphins qui étaient pris en capture accessoire. Non, je pense que là, il y a vraiment un vrai débat qu'il faut qu'on aborde scientifiquement. Il y a des gens en France qui sont outillés pour travailler sur ce genre de questions. Je ne sais pas si on a les données historiques qui nous montrent qu'il y a une progression dans le temps par rapport à ce qu'on faisait avant. En tout cas, qu'on arrête de dire que c'est lié aux tempêtes, parce qu'il n'y a pas eu plus de tempêtes cette année que les années antérieures. Donc il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Puis après, c'est comment développer des pêcheries qui soient vertueuses et qui tuent un minimum de cétacés.
Martine Vallaud.
Je pense que, oui, alors là, pour le coup, on peut répondre, parce que c'est une question qui est très documentée. Il y a donc l'Observatoire Pélagis qui est rattaché à l'Université de La Rochelle.
que je connais bien.
Depuis très longtemps, donc on a des données depuis au moins une trentaine d'années. On voit vraiment que les chiffres ont vraiment progressé depuis 2016.
D'accord.
Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux engins de pêche? Beaucoup plus de bateaux, peut-être les deux, mais il y a une vraie question sur les engins de pêche avec ces filets qui sont des centaines de mètres, voire jusqu'à un kilomètre, dans lesquels les dauphins se prennent. Donc,
bien sûr.
Voilà.
Tout à fait.
Éric Orsenna, une réaction?
Oui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on ne connaît pas assez de choses. C'est-à-dire qu'il faut prolonger un peu le savoir, et puis que la question de la pêche durable est évidemment posée depuis longtemps. Et la question d'ailleurs aussi de l'élevage des poissons. Parce que pêcher pour nourrir des poissons, c'est pas ce qu'on appelle aussi quelque chose de durable. Donc la question de la pêche est absolument, absolument centrale. Moi, c'est le genre d'enquête que j'adore mener, parce que je suis comme vous, madame, moi je suis une sorte de reporter, et la question de la pêche est absolument centrale. Avec un armement, on voit bien, qui en France a décliné énormément et qui va décliner encore plus, parce que se rajoutent à ça des questions géopolitiques, notamment après le Brexit, c'est-à-dire l'interdiction de zones qui étaient normalement ouvertes aux bateaux européens, comment ça va se passer? Et c'est pas parce qu'il y a moins de pêcheurs que ça va aller mieux, parce que les pêcheurs qui resteront ne seront pas forcément ceux qui pourront envisager l'avenir avec plus de sérénité et de responsabilité. C'est pas évident. Il va y avoir des sauvages, là.
Ouais, globalement, il y a de moins en moins de pêcheurs et de plus en plus d'outils performants dans la pêche.
Exactement.
Il y a un débat en ce moment. L'Union européenne s'apprête à réautoriser des subventions pour des bateaux plus puissants, plus performants. C'est une vraie question. Plus on pêche de moins en moins, il y a de moins en moins de pêcheurs, mais il y a des outils de plus en plus performants.
Et puis, il y a de moins en moins de poissons. Donc, peut-être que les bateaux de pêche vont se pêcher eux-mêmes.
Je renvoie nos auditeurs à l'émission qu'on a pu réaliser il y a quelques semaines avec Bloom, et puis donc l'association Bloom, et avec le chef étoilé Christopher Coutenceau, justement lui-même de La Rochelle, et qui travaille uniquement avec des pêcheurs pêche durable. Merci Martine Vallot.
Merci, à bientôt.
Et je renvoie nos auditeurs vers votre article que l'on peut retrouver sur notre site et sur celui du Monde.fr.
Elles n'ont l'air de rien, mais sont peut-être notre meilleure arme contre la pollution sous-marine. Des barrières de bulles d'air au fond des océans et des fleuves. Une idée toute simple, aux enjeux essentiels. Aux Pays-Bas, sur la rivière Eysel, ce prototype est mis à l'eau pour la première fois.
Ça y est, on est prêt à mettre en marche la pompe à air et les premières bulles vont bientôt apparaître.
Un simple tuyau de 200 mètres de long, percé de centaines de trous minuscules. Le résultat, le voilà. Un barrage de bulles naturelles en travers de la rivière, avec un objectif, lutter contre la pollution des cours d'eau. Bouteilles, sacs plastiques, tous ces déchets sont bloqués par les bulles et repoussés vers la surface. Un système testé pendant plusieurs mois en laboratoire.
En plaçant la barrière en diagonale sur un cours d'eau, le courant guide naturellement les déchets plastiques vers la berge, où on peut ensuite les récupérer.
Les déchets sont ensuite incinérés ou recyclés. L'expérience hollandaise pourrait aboutir à la mise en place de rideaux de bulles permanents sur plusieurs cours d'eau du pays d'ici la fin de l'année.
C'était un reportage diffusé sur France 2 le 12 février 2018, il y a 2 ans, et on sent effectivement cette inventivité aussi des hommes en action pour trouver une solution. Je sais, Éric Orsenna, que vous êtes administrateur indépendant de 3 start-up liées à l'écologie, c'est ça? Donc il y a des jeunes pousses aussi, il y a des envies de trouver des solutions.
Partout, par exemple, je rejoins une société qui s'appelle Mycophyto, qui est très très intéressante, qui voit essayer de doper les relations entre les micro-champignons et puis les racines, et les mettre en contact. Et si on les met en contact, c'est, vous savez qu'au fond, dans le sol, c'est une sorte de grand internet, le sol. C'est une sorte de... dans le sol, il y a des liens partout. Et au fond, le sol, c'est un centre de rencontre. Donc quand vous faites se rencontrer un champignon et puis une racine, eh ben ça peut exploser. Et donc ça peut exploser au bon site, ça peut dire. C'est-à-dire qu'ils peuvent engendrer plus qu'avant. Donc c'est ça qui me fascine, moi, ce genre de choses. Mais c'est l'imitation de la nature, c'est-à-dire on fait ça. Donc la toile, le net, c'est au fond, au-dessus, et ben en dessous, dans le sol, il y a ça. Ça, c'est le genre de choses qui me ravit absolument. Et vous augmentez de 30% les rendements sans mettre pas du tout d'azote en plus. Simplement, vous les faites rencontrer. Donc j'adore multiplier les sortes de rencontres.
Gilles Boeuf, c'est vrai qu'on peut aussi trouver des solutions dans le vivant.
Au fond. Oui, énormément. Hein, ce qu'on appelle la bio-aspiration, le biomimétisme, qu'on appelait bionique dans les années 60, là, c'est le fait de scruter le vivant pour voir comment il a fait face à des difficultés très importantes. Le vivant, je dis, a une R&D de 4000 millions d'années. C'est quand même pas mal. Hein. Comment ils ont pu, une libellule, elle vole à 90 km/h avec 2 watts. 9 techniques de vol, elle encaisse 30G en accélération, mais ça fait rêver tous les spécialistes d'hélicoptères de combat, ça. Comment elle fait? Alors, au lieu de mettre des pesticides dans les mares et de faire des parkings par-dessus, et tout est à l'avenant. Il y a une petite éponge de Méditerranée qui vous fait un béton armé, génial, beaucoup plus léger que le nôtre, en plus beaucoup plus plastique. Sur un séisme, il se déforme, il se casse pas, il écrase pas les gens qui sont en dessous, et quand vous avez fini, vous compostez. Il y a plein d'exemples comme ça dans le vivant. Et ça, il faut absolument qu'on perde notre arrogance pour aller voir ce qui se passe. Et c'est là que je dis tout à l'heure, quand on parlait des connaissances, c'est très important. Mais en même temps, il faut développer aussi chez nos gamins un esprit critique. Ils ont perdu cela. Et sur les jeunes aujourd'hui, je suis mitigé parce que quand je vois que des jeunes sont capables de passer 2 nuits de queue devant la Fnac pour acheter le dernier modèle d'iPhone, je me dis, mais comment ils ont été élevés? Ça sert absolument à rien, on n'en a pas besoin. Face à des systèmes où, effectivement, ils sont très concernés par ces questions-là, on a de plus en plus de véganes ou des végétariens, de plus en plus, on le voit dans les familles aujourd'hui. Le dîner familial, il vire au conflit. Hein. T'as acheté comment ton avocat, tu sais d'où il vient, tu sais comment il est fabriqué, n'achète pas des kiwis quand c'est pas la saison des kiwis. Ils ont raison. L'autre jour, je voyais à vendre, rue des écoles, des cerises à 60 euros le kilo. Je suis désolé, tous les deux avec Eric, on n'est pas si ratés que ça, et on mangeait pas de cerises en février.
Donc, et en plus, c'est rue des écoles.
Oui,
en
plus.
Donc, développer cet esprit critique parce que les jeunes, même s'ils sont conscients de ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle planétaire et les enjeux environnementaux, ils les connaissent, ils sont dans un système avec les réseaux sociaux, oui. les fake news, et c'est là le danger.
On leur fait gober n'importe quoi. Et ça, vraiment, il faut résister à cela. Bon, à l'époque, on n'avait pas ça. Dans nos générations, on lisait un truc, c'était à peu près juste. Maintenant, allez sur un site d'internet Climate Change. Les 7 premiers sites sont climato-sceptiques. Donc comment est-ce qu'on peut continuer à faire ça? Vous avez des lobbies totalement irresponsables parce qu'ils continuent à faire de l'argent. Ils savent qu'ils ont perdu déjà ces gens-là. Hein. Mais on continue tant qu'on peut faire de l'argent. C'est pareil pour les pesticides. Le jour où on paiera décemment le monde agricole, on arrêtera de mettre des pesticides. Et pour ça, il faut tuer une légende du low cost en matière d'alimentation. On mange des bonnes choses, on respecte les gens qui les produisent, et puis tout le monde est gagnant là-dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument qu'on développe beaucoup plus que ce qu'on fait à l'heure actuelle.
Éric Orsenna, le monde industriel, le secteur de l'économie a une grande responsabilité.
Oui, une responsabilité, mais aussi les consommateurs. Je veux dire, quand on voit qu'actuellement, dans un budget global d'un ménage, l'alimentation, c'est 10%. Le dixième, alors que nous sommes ce que nous mangeons.
Exactement.
Et on demande aux agriculteurs, avec une inconséquence scandaleuse, de faire mieux et toujours moins cher. J'étais là chez moi dans le 13e et je voyais un supermarché prix bas, mais j'avais honte. Qu'est-ce que c'est le mépris dans lequel se sentent les agriculteurs? Il y a ce point-là. Et donc, relié à ça, il y a la question des territoires. À quelle échelle peut-on lutter? À quelle échelle peut-on changer? C'est pour ça que je suis passionné par ce que nous avons fait avec Tara, c'est-à-dire de demander aux candidats aux mairies de s'engager. Parce que c'est le territoire que les gens connaissent. Ils font confiance à plus de 60% des élus municipaux. Et puis, c'est leur ville. Leur ville, c'est la co-responsabilité entre les élus et les habitants. Donc, un projet de la ville.
Donc, ils ont lancé une charte concrètement. Ils ont lancé
plus de 50 candidats ont signé dans les grandes villes, dans les grandes comme ça, Lyon, Paris, un peu partout, et puis des toutes petites villes. C'est-à-dire, une ville, c'est un projet. On dit qu'il y a une dégradation du commun, mais le commun, ça veut dire il faut la faire revivre. La démocratie, c'est un moyen. C'est la République qui est le but. C'est-à-dire, c'est vivre commun. Et dans ce vivre en commun, évidemment, il y a le respect du territoire. Et notamment, et le respect de ceux qui nous donnent, nous nourrissent grâce à ces territoires. Ce mépris dans lequel on tient les agriculteurs est insupportable. Insupportable. Et ce sont ces mêmes urbains qui veulent donner le moins à ce qui les nourrisse, qui donne des leçons de nature aux agriculteurs. C'est vraiment insupportable.
Donc la charte s'appelle « Mon territoire s'engage, rivières et fleuves sans plastique, océans protégés », que tout élu, en tout cas, peut découvrir sur le site de Tara. Cet engagement, donc la solution, Gilles Boeuf, ça passera forcément par les maires. Ce sont les meilleurs intermédiaires dans ce changement de monde.
Moi, je les admire beaucoup, parce que par rapport aux autres élus, eux, ils ont les botopies, ils sont sur le terrain, ça, en permanence. Et c'est vraiment le trait d'union entre le citoyen et puis tout le reste, en fait.
Vous savez comment on les appelle, c'est les seuls qui sont à portée de gifle.
Oui, aussi, en plus. Ouais.
Et ça dit tout. Ouais.
Il faut un grand courage. Je les admire, parce que c'est vrai que... Alors, c'est là, d'ailleurs, par contre, à l'inverse, je comprends trop pourquoi le monde des maires est politisé. Mon problème, moi, c'est d'aider une ville à être la meilleure possible, la plus vertueuse possible, une fleuve, un morceau de côte, un lac. Donc, c'est vrai qu'on sort des choses classiquement des élus de grands partis politiques. Et ils ont un rôle essentiel, parce qu'un maire convaincu... Alors, bien sûr, comme dit Eric, il peut-être prendre des gifles, mais ils sont en contact des ouailles en permanence. Ils peuvent vraiment faire. On a quelques amis maires qui font des choses, mais moi je suis totalement admiratif. On sert des cantines gratuites depuis 10 ans à des enfants que avec du bio, et on vire pas vers des mouvements qui sont délétères et nauséabonds. Génial, quoi. Je trouve que c'est ça qui est super. Et ce contact avec le citoyen, il est bien, et on peut être élu. La question, c'est qu'il faut un certain temps pour que ça puisse fonctionner. Puis aussi, c'est tout le débat global aussi, du local et puis du global. Nous, on parlait avec notre ami Jacques Weber à l'époque. Le global est super important, le changement climatique, l'effondrement, le trafic aérien, tout ce que vous voulez. Mais le local, c'est là-dedans que vivent les gens tous les jours auxquels ils sont confrontés. Donc, on parle de local, comme ça, quelquefois. Et le maire doit effectivement être capable de gérer tout cela. C'est pas simple, mais c'est un merveilleux, en fait, système pour qu'on fasse beaucoup mieux dans le futur. On a besoin des maires.
Et puis, moi, ce que j'aime bien, parce que je circule énormément en France, donc à chaque fois je vois un peu ce qui se fait, et je vois des villes formidables, et puis des villes qui sont des catastrophes. Et quand je vois des villes formidables, je dis, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est quand même, pour moi, la logique. C'est pas seulement le nom d'un bateau de Charcot qui explorait, c'est que le pourquoi pas, c'est la logique. Le pourquoi pas, c'est la logique de la République. C'est-à-dire, ils l'ont fait, ça marche, pourquoi pas nous ? J'ai une idéologie extrêmement simple. Il y a, je hais de toutes les forces de mon âme, le « c'est pas pour moi », la musique classique, c'est pas pour moi. La science, c'est pas pour moi. Et ma morale, c'est le pourquoi pas. Ils l'ont fait, pourquoi pas.
Donc, repensons l'aménagement de nos territoires. Et donc ça, c'est entre les mains de nos maires et de nos futurs maires, Éric Orsenna.
De maires et des régions. Et donc, de régions. Quelle est la bonne échelle ? Comprenez, si c'est trop petit, c'est sympathique, c'est un petit exemple. Mais si c'est trop grand, on est perdu parce qu'il y a des logiques, de l'emploi, etc. Et puis, lié... Quand il y a une ville, il y a un territoire avec une relative identité, on est en commun. On raconte une histoire commune. On se prépare une histoire commune.
Donc ça veut dire, en tout cas concrètement, de lutter contre les décharges sauvages, de faire du tri, d'avoir des poubelles adaptées, de limiter, de récupérer, d'assainir. Enfin, c'est vraiment un projet global, mais que certains maires n'ont pas idée de la façon dont ils peuvent opérer.
Mais ils n'ont pas idée parce qu'ils ne regardent pas. Et puis cela, ce n'est pas forcé de les réélire. On a notre possibilité de le faire. Vous savez, moi, je suis ambassadeur de la lecture publique. J'étais dans 55 villes pour voir comment on pouvait lire plus. Pourquoi lire plus ? Parce que lire, ça, d'abord, lire, c'est pas une consommation. Lire, c'est une co-création. Quand on lit le même livre, tous les trois, on se fait chacun un fil différent. On co-crée le livre. Et donc, voilà. Et on leur dit, pourquoi vous faites pas une médiathèque ? Il y aura toutes les générations réunies et les gens vont se remettre à lire. Comment peut-on être militant de l'avenir sans avoir ce repli sur soi du rêve et de la réalité qui s'appelle la lecture ? C'est pareil. Donc, il y a des maires qui veulent pas faire ça. Eh ben, très bien. Si les habitants se sentent bien avec ces maires-là, qu'ils continuent.
Mais d'autres ont certainement l'envie, mais ont besoin peut-être d'être accompagnés aussi.
Mais ils sont accompagnés, mais ils peuvent aussi se bouger les fesses.
Gilles Boeuf, une ville sans plastique, c'est possible ?
Pas immédiatement, mais à terme, je pense que oui. D'ailleurs, on a vécu très longtemps sans plastique, et on vivait pas plus mal que ce qu'on est aujourd'hui, donc c'est vrai. C'était une facilité, le plastique, en fait. Ça coûtait pas trop cher à produire, ça venait effectivement des...
Pas trop cher maintenant.
Fossiles. Oui, bien sûr, on est bien d'accord.
Comme d'habitude.
Oui, et puis on arrive à quelque chose où c'est pratique. Mais aujourd'hui, on arrive à des incohérences complètes. Vous voulez des fruits bio, ils sont emballés en du plastique. Alors là, il y a quand même quelques problèmes particuliers. Refusons-le, aujourd'hui, les sacs en plastique sont théoriquement interdits. On vous en donne encore dans pas mal d'endroits. Donc c'est vrai que ça réflexe de tous les jours, je pense qu'il faut le refuser. Et puis passer aussi à notre monde plus enchanteur. Franchement, avec Eric, on a voyagé, quand vous arrivez dans des territoires de pays en voie de développement, des îles qu'on connaît bien, dites paradisiaques, quand vous avez tous les arbres, toutes les mangroves remplies de plastique, mais c'est horriblement déprimant. Alors, ils ne sont pas mis au fond de l'eau, les plastiques en question. Il y a vraiment un énorme effort collectif à faire. Bien sûr, il faut le refuser. Si on n'achète pas, il n'y en aura plus.
Vous savez, j'ai deux verbes tout simples. Alerter, ce qu'on a fait, émerveiller.
Oui, absolument.
Parce que si vous émerveillez pas, mais oui, si notre planète était nulle, mais pourquoi on se battrait? Mais c'est une splendeur, cette planète. Et quand je vois des gens qui commencent à dépenser des milliards, non pas à explorer l'espace, qui est une activité ô combien essentielle, mais dire qu'on va déménager sur un caillou merdique à je sais pas combien de millions d'années-lumière et qu'on va compresser le temps pour pouvoir avoir le temps de débarquer là-bas. Mais c'est débile! Il y a une solution, elle est nous, elle est chez nous.
Vous savez, Aurélie, tous les cosmonautes ont tous pleuré dans leur petite capsule. On voyait dans la totalité à travers une petite fenêtre. Il y a 510 humains encore vivants, dont 10% de femmes qui ont vu ça. Ils ont tous pleuré. Et les premiers, c'était pas des poètes spécifiques, non, hein. Ils sont des commandos.
Ils ont que la Terre était ronde. Parce qu'il y a des connards qui pensent maintenant qu'elle est plate. D'ailleurs, c'est le roi des imbéciles qui, avec une fusée qu'il a construite lui-même, il voulait prouver que la Terre était plate.
Il s'est aplati, il est devenu platiste.
Donc il s'est aplati. Donc c'est un non-scientifique qui est devenu une crêpe.
Bon, en tout cas, on l'aura compris, vous êtes tous les deux dévoreurs de vie, arpenteurs du monde. Un monde que l'on ne pourra peut-être plus investir de la même façon non plus dans l'avenir, hein, si l'on suit les conseils des scientifiques notamment, qui en appellent à une responsabilité en matière de bilan carbone, cette nécessité de ralentir nos vies, est-ce que ce n'est pas non plus une utopie dans un monde où tout va vite, où Internet et la société connectée célèbrent l'immédiateté?
Aurélie, est-ce que tout va dans la rapidité? Tout ce qu'on a fait depuis ce matin, tous les trois, qui sert absolument à rien, mais qui a apporté du bonheur ou du plaisir, c'est surtout pas la rapidité. Les calais rapides, ça marche pas. C'est pas terrible, hein. Donc, faut vraiment regarder, effectivement, comment on vit aujourd'hui. Quand je vois que ce numérique, il bouffe déjà 10% de toute énergie électrique produite par les humains, est-ce qu'il nous faut des 4G, des 5G, je sais pas, demain des 6 ou des 7? C'est des vraies questions à se poser, en fait, hein. Et là, le citoyen consommateur doit absolument réagir. Ces produits n'auront de possibilité d'exister que si on continue, effectivement, à les acheter. Notre seule arme contre ces entreprises qui produisent ceci, pour gagner un peu plus d'argent, c'est ça. Donc, arrêtons cette économie incroyable qui consiste à faire du profit en détruisant la nature et le vivant, ou en la surexploitant. C'est jouable, mais il faut changer.
Mais le citoyen consommateur est pris lui-même au quotidien dans son travail, dans des entreprises qui ne peuvent plus, pense-t-elle, se passer aussi de cette immédiateté, ou qui le droit à la déconnexion, finalement, n'est pas applicable aujourd'hui, ou n'est pas appliqué.
Et on peut quand même avoir une certaine liberté, c'est-à-dire, vous savez, et ça donne plus d'humanité. Pourquoi est-ce que les parents laissent leurs enfants en tête-à-tête avec des plateformes, laissent leurs enfants élevés par les plateformes?
Ils ne lisent plus du tout. Hein.
Mais à quoi ça sert d'avoir des enfants si c'est pour les confier à des plateformes? On n'a qu'à faire baiser les plateformes entre elles. Elles feront des enfants plateformes et puis elles seront ensemble. Non mais on est où dans l'humain là? Ça veut dire quoi?
Donc responsabilité de tout le monde.
Évidemment,
à chaque niveau.
On a dit responsabilité, liberté, émerveillement, alerte. C'est-à-dire l'ensemble de la gamme de ce qu'on appelle un être humain. Quand même, c'est un trésor, un être humain. C'est comme la planète, c'est des trésors, ces gens-là.
Comme un ver de terre et comme un amphipode, qui sont aussi des trésors.
C'est ça, exactement. Nous, les animaux, dont les humains.
Merci à tous les deux, à Éric Orsenna. Je rappelle le titre de vos livres, Vive l'océan, publié par le Livre de Poche, Dernière nouvelle du monde, chez Robert Laffont, et puis le dernier roman paru, Brisé en nous, La mer gelée, paru chez Gallimard.
Un roman d'amour.
Et oui,
mais ça m'a pris du temps.
Ah, l'amour
pour me réconcilier.
Ou l'écriture?
Non, l'amour. L'écriture a été plus rapide que l'amour. Ça m'a pris du temps pour retrouver ma chère compagne.
Gilles Boeuf, vos articles donc sur les fleuves, les lacs, en tout cas ce que vous avez écrit dans les derniers numéros de la revue Relief, mais je crois qu'Éric Orsenna aussi a pu commettre des écrits pour cette très belle
Relief.
Très
belle Relief, moi j'adore Relief, vous pensez, j'ai 1m73, donc Relief pour moi c'est un horizon indépassable.
Et votre leçon inaugurale, Gilles Boeuf, au Collège de France, publiée chez Fayard, La biodiversité de l'océan à la cité. Et comme toujours, toutes les informations et les compléments sont à votre disposition sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Réécoute, téléchargement, vous pouvez nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet, et sur notre page Facebook. Désolé, c'est vrai qu'on est très connectés quand même pour l'émission. Samedi prochain, nous nous retrouverons à 20h, et ce jusqu'au 4 avril. Hein, vous avez pris l'habitude là en cette période de carême. Et nous parlerons de la nature en ville avec les architectes paysagistes Caroline Molly et Nicolas Gilsoul. Et dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur France Culture. Place aux fictions, samedi noir, sous la houlette de Blandine Masson.